Bon vendredi à tous. J'espère que vous allez bien en direct du Salon de l'Auto de Québec. Ouais, on est encore ici. On est choyé, en fait, de faire cette émission extérieure-là. Je dis « on » parce que ben, Yannick Marceau aussi est là sur l'heure du lunch. On vous attend pour cette dernière journée de la programmation de la semaine au Salon de l'Auto de Québec. C'est au centre de foire. Bon, j'espère que vous avez passé une belle matinée, qu'elle est douce, mais surtout très ensoleillée. Je sais pas pour vous, mais en écoutant Rage Against le matin, en m'en venant ici au Salon de l'Auto, en début de journée, je mettais le son dans le piton, j'ai ouvert les fenêtres et ça m'a donné le plus beau des sentiments de printemps. Il y a quelque chose de revigorant là-dedans qu'on aime hein, quand la température commence à être ensoleillée, plus chaude un peu, puis que les routes, même s'il y a de la garnotte dessus, nous rappellent que l'été s'en vient. C'est pas qu'on est pressé d'être dans l'été. Je dis souvent qu'on est chanceux d'avoir 4 saisons au Québec. Là. On est très, très chanceux. Même pour ceux qui haïssent l'hiver. Je vous le dis, on est chanceux, mais c'est plutôt qu'on peut apprécier tous ces changements-là qui nous amènent un petit quelque chose de plus à chaque, mettons 4 mois. Là. Bon, c'est pas nécessairement le bon découpage pour les saisons, là, mais il y a un petit quelque chose de différent qui change notre routine, en fait, avec la température. Je vois les textos entrer. Salut à tous. 418-971-1021 pour vos salutations. Bien qu'on soit en direct du Salon de l'Auto de Québec, le Twitch est activé par mon collègue Thomas qui est en direct de Le Bourgneuf. Salut Tom, j'espère que
Pascal,
tu vas bien.
Bon vendredi.
En forme?
Ah oui, vraiment. On est prêt pour le début de la fin de semaine. Il fait tellement beau dehors, ça n'a pas de bon sens. On est gâtés, le printemps qui est vraiment là depuis quelques semaines. On dirait qu'on le ressent plus ce matin.
Ah oui, oui, oui. Aujourd'hui, là, c'est vraiment quelque chose de particulier. En plus, c'est la dernière journée de la relâche des enfants. Je sens qu'ils seront excités. Tu sais, le petit week-end, peut-être que les parents n'avaient pas, en fait, congé cette semaine. Puis là, ben, ils vont pouvoir passer ce temps-là avec les enfants. Tom, dis-moi si tu animes ton émission de ce week-end en direct du Salon de l'Auto, toi aussi.
Oui, je vais être là à partir de dimanche à 10h jusqu'à 15h. Je vais pousser la meilleure musique de la grande région de Québec. Puis sinon, ben Dan Demand va être là aussi demain pour le Salon de l'Auto. Donc, on va se faire bien du plaisir. Puis si ça vous tente de passer nous voir, ben on va être là. Puis ça va nous faire plaisir de vous voir.
Oui, je te le demandais parce qu'il y avait des auditeurs hier qui se demandaient « You, Tom, ben, t'as pas le choix d'être du côté de Le Bourgneuf si on veut mettre en onde l'émission. » Nous, c'est une petite table et 2 micros. C'est avec sous une tente, en fait, de boulevard 102.1. On est là où Rouler Passion est, soit entre des Lamborghini et des Porsche. Pour ceux que ça intéresse, je pense qu'on est les mieux placés. En fait, grosse Lamborghini orangée avec une porte pour entrer qui ouvre par en haut. Là, que tous ceux qui sont fans de voitures et qui viennent de m'entendre rient sûrement de moi. Parce que peut-être une façon de dire comment ça s'appelle, une porte qui ouvre par en haut comme ça. Bon, c'est ça, je fais rire de moi. Une porte papillon, c'est une porte papillon. Voyez-vous, on me le dit sur place. J'adore ça. Alors, il y a un Bronco aussi en avant. Mais tu sais, c'est des voitures, en fait, qui sont propres, qui sont belles, qui sont là pour être exposées, pour vous faire triper aussi. Fan de voitures, oui, mais juste pour les curieux. Tu sais, je vous rappelle que tout ce qui est militaire, pompiers, ambulanciers, policiers sont sur place. Vous pouvez avoir des conversations avec tout le monde. Puis je l'ai dit toute la semaine, mais à cette heure-ci, c'est le meilleur moment pour arriver. Premièrement, stationnement très accessible. Deuxièmement, les exposants sont libres. Donc, ils prennent le temps de vous jaser. Ils ont ce temps-là avec vous parce que, bon, plus la journée avance, plus les gens viennent. Mais c'est vraiment le fun de vous voir aussi sur place. Puis, c'est pour toute la famille. Les jeux gonflables sont déjà gonflés, Tom. Normalement, ça commençait peut-être autour de 10h30, 11h. Là, je les vois, ils sont prêts peut-être pour ce vendredi-là. Bon. On s'installe tranquillement dans leur CV. Merci d'être là. Merci pour vos salutations. Ça me fait plaisir de me savoir entouré de la belle gang, comme d'habitude, que vous me laissiez entrer dans votre quotidien. C'est un beau bonheur. 0 degré, c'est ce qu'on a à l'extérieur à Québec. Ça va monter jusqu'à 2, généralement ensoleillé comme ça, là, comme on a en ce moment pour toute la journée. Ce soir et cette nuit, c'est un minimum de moins 5, maximum de moins 3. Bien, peut-être qu'au courant de la nuit, par contre, jusqu'à demain, là, ça pourrait descendre un peu plus. Je ne sais pas si les gens sont allés à Igloo Fest hier. Ça a ouvert aussi. Belle prestation de Lost Frequencies. Je ne suis pas fan de ce type de musique-là normalement, mais avec le setup d'Igloo Fest, c'est directement sur la plage Jean Béliveau, avec des artistes comme Lost Frequencies qui sont très accessibles. Je le dis comme ça parce que c'est pas nécessairement de la musique où, pour certains, je dirais, faut que tu sois sous certaines substances pour tout apprécier. Non, c'est vraiment, vraiment, vraiment des beaux sets musicaux. Avoir du fun comme ça dans des températures qui sont agréables dans la ville de Québec, sur la plage Jean Béliveau. Il y a beaucoup de collègues qui sont venus hier aussi, puis je voyais, en fait, Québec illuminé sous un printemps extraordinaire à la plage Jean Béliveau. Il y a quelque chose de le fun. Puis c'est le fun aussi depuis que c'est là. Ça a comme changé de place. Avant, c'était dans le coin de Grande Allée, mais on a décidé d'animer une autre section, une autre portion de la ville. Ça vaut la peine. Ce soir, encore une fois, la programmation est extraordinaire. Puis demain aussi, c'est à découvrir. Allez-y, allez en profiter. On est chanceux d'avoir ce genre d'événement-là en plein mois de mars. Thomas, on part ça. C'est l'heure du café. Si vous n'avez pas coulé votre café, Sarah Dufour est avec nous. On va-tu prendre une marche à Boulevard 102.1. Merci d'avoir choisi l'heure CV en direct du Salon de l'Auto de Québec. Je vous rappelle que c'est 418-971-1021 pour me rejoindre. En cette journée bien spéciale, le 8 mars, c'est une journée que j'aime particulièrement. Bien sûr, parce que c'est la journée internationale des droits des femmes, selon l'appellation officielle de l'ONU. Journée internationale des droits des femmes qui est célébrée, oui, au Québec, en France aussi, pour ceux qui ne savaient pas. Et c'est en ce 8 mars qu'on peut remercier toutes celles qui ont fait en sorte qu'on ait le droit d'avoir de l'égalité dans bien des dossiers dans nos vies. T'sais, hier, Marceau et moi, on s'agaçait dans Marceau le midi, mais jamais je n'aurais la chance de faire ma passion puis de pratiquer mon métier s'il n'y a pas certaines femmes qui avaient décidé de se lever dans le passé et de dire non, on a le droit de voter, on a le droit d'exprimer nos opinions, on a le droit d'être comme vous êtes, vous aussi, les hommes, de conduire aussi. Il y avait plusieurs incapacités, en fait, d'être femme et de vivre à travers le temps. Puis si on pense que ça date de si longtemps que ça, pas nécessairement. On s'entend que dans les années 60, 70 et même 80, il y avait beaucoup de problématiques quand tu étais une femme pour t'affirmer, pour être. Alors, imaginez bien avant ça également. C'est une journée importante aussi pour dire à celles qui vous entourent pourquoi vous appréciez leur force, pourquoi vous appréciez leur personne. Je pense aussi entre femmes, on doit se le dire, si on a des bonnes amies, si on a des mentors autour de nous, si on a des femmes qui illuminent notre parcours puis qui nous permettent en fait de grandir puis d'être qui nous sommes, ben faut prendre le temps de le dire. C'est pas juste une journée pour aller manger au restaurant ou donner des fleurs. On agaçait Yannick là-dessus hier parce que moi j'attends mon bouquet de fleurs de Yannick Marceau en passant. J'ai hâte de voir s'il va me l'apporter ici aujourd'hui. Non, mais faire sa part, je dois aussi remercier les hommes. Je dois vous remercier, messieurs, d'être qui vous êtes et de nous laisser cette place-là, de nous laisser s'épanouir et justement d'avoir la même place que vous dans la société. Merci pour tous ceux qui luttent aussi pour les égalités en termes de salaire, en termes de place dans une entreprise ou encore de choix décisionnels. Je pense que tout le monde a à voir dans ce petit chemin-là et cette évolution. Puis, messieurs, pour ceux qui ont croisé la route de plusieurs femmes dans leur vie, c'est certain, même de leur mère, on s'entend assurément, et qui ont décidé de les faire briller autour d'eux, ben vous avez votre juste part dans cette magnifique journée très importante. Et je dois dire quand même que je souligne aussi l'anniversaire de ma sœur qui est à l'écoute. Alors, bonne fête, Mélissa. Ça pourrait être drôle, ça, aller bombarder... Ma sœur est très, très discrète. Allez bombarder sa boîte Facebook Messenger, Mélissa CV, et allez lui souhaiter une bonne fête. De votre part, elle va rien comprendre et ce sera une magnifique journée et blague pour moi. Dans leur CV aujourd'hui, je dois vous parler d'un événement vraiment le fun qui va se passer en Beauce, en mai. Si vous pensez que le temps des sucres fait juste commencer, c'est pas le cas. Puis hier, on parlait à David Simard de la ferme Simard, justement, sur ce temps des sucres-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que le sirop d'érable goûte ce qu'il goûte? Est-ce que ça peut changer selon la méthode utilisée? Où est-ce qu'on en est aussi avec l'exportation du sirop? Vous allez pouvoir reprendre ça sur le site de blvd.fm. Thomas Gauthier a mis en ligne les extraits hier. Mais on va fêter le temps des sucres plus longtemps cette année. Pourquoi? Parce qu'en Beauce, on a décidé d'en faire un festival lors d'une fin de semaine de mai. Si vous avez envie de le faire, bien, ça va être avec toute la famille et les billets sont déjà disponibles. C'est quoi ça? C'est le Festival Beauceron de l'érable du 10 au 12 mai prochain. les beaucerons vont vous faire découvrir, c'est pas le cas, les produits de l'érable parce que vous les connaissez, mais surtout cette nouvelle fin de semaine incroyable, tir sur neige. Il y aura un gala d'humour avec Louis-José Hood, Patrick Groulx, une zone familiale, du maquillage, une mascotte, des camions de rue, des conférences. Bref, c'est une fin de semaine avec plein d'activités. Pour avoir vos billets, c'est le festivalbeaucerondelérable.com. Tapez ça sur Google si c'est allé trop vite. festivalbeaucerondelérable.com. Ça va être à l'espace Carpe Diem à Saint-Georges. J'ai vu passer sur les réseaux sociaux récemment une publication comme quoi il y a une entreprise qui a été montée en fait de toutes pièces, mais c'est pas une fausse entreprise, c'est une vraie entreprise qui crée de faux influenceurs. Donc, des faux comptes d'Instagram, par exemple, de Facebook, TikTok et autres avec l'intelligence artificielle et qui propose à des entreprises d'être représentées par ces faux influenceurs-là. On sait que les influenceurs existent. N'importe qui peut en être un du jour au lendemain puis commencer à faire de la promotion pour des entreprises. Mais là, on crée vraiment de toutes pièces une image à l'image que l'entreprise souhaite avoir par rapport à cette personne-là. Puis on les fait faire de la promotion. C'est rendu que on peut voler les jobs des influenceurs par l'intelligence artificielle. Puis pour aller parcourir tout ça puis pas se faire prendre ou encore comprendre comment un marché comme celui-ci peut fonctionner, on s'en va jaser avec Patrick Mathieu dans un instant, notre expert en sécurité informatique. Vous êtes dans l'heure CV à l'extérieur, c'est magnifique, c'est zéro degré. En direct du Salon de l'Auto de Québec, Yannick Marceau s'en vient aussi pour Marceau le midi pour l'heure du lunch dès 11h. Venez faire votre tour et au retour dans l'heure CV, on parle avec Patrick Mathieu.
Avec Pascal CV. Boulevard 102.1.
Ouais, ça prend cet ancien Salon de l'Auto de Québec pour rester concentré puis vous faire une émission. Merci d'être là. Merci d'avoir choisi Boulevard 102 en ce vendredi 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. C'est super ce que Tommy vient de nous présenter. Je sais pas si vous avez entendu, là. En fait, 8 mars, c'est aussi une journée importante pour plusieurs bandes de rock. Je sais que ça passe en deuxième. On est bien conscient. Mais ce que nous offre Tommy, notre producteur, à travers la programmation, moi, c'est quelque chose que je trouve d'extraordinaire. Et également aujourd'hui en musique, c'est bien spécial, c'est une journée spéciale pour ce 8 mars, droit de la femme, parce que c'est une programmation 100% voix de femmes, des rockers dans notre programmation à Boulevard 102.1 pour faire notre part et souligner celles qui ont construit le monde de la musique avec leur magnifique voix, band et fougue. Thomas, de l'autre côté du de Le Bourgneuf, en fait, dans nos studios à Boulevard 102.1, a appelé notre prochain invité. Il est au bout du fil, c'est notre expert en sécurité informatique. Patrick Mathieu. Salut Patrick.
Hey, salut.
On est à distance, on est au Salon de l'Auto de Québec. Tu aurais sûrement du plaisir, Patrick, ici, parce qu'il y a beaucoup de technologie maintenant dans la voiture, puis peut-être qu'il y a une portion sécurité qu'on pourrait aborder ensemble avec les présentations ici, parce qu'on a jasé un peu ensemble aussi à travers le temps, là. Mais cette technologie-là qui est, bon, maintenant au sein des voitures, de l'automobile, toi, tu vois que c'est un privilège pour nous, conducteurs, ou c'est un couteau à double tranchant?
Ah, c'est clairement un double tranchant dans le sens que c'est plein d'utilités, de trucs intéressants. Je pense qu'on aime tous les petits gadgets dans nos voitures aujourd'hui, sauf que ça va être un double tranchant dans les années à venir parce que les entreprises, les gouvernements et autres vont pouvoir utiliser cette technologie-là pour mettre les règles qu'ils veulent en place. Fait que si les limites de vitesse sont à 50 et vous roulez à 60, bien évidemment, votre voiture est un ordinateur. Fait qu'il pourrait dire que s'il détecte que c'est 50, puis votre voiture ira jamais plus vite. Ça, c'est un des seuls aspects là, qui pourrait venir là-dessus. Même pas long parle de vie privée, de liberté, là. Ouais,
c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que si on pourrait voir ça en Corée ou en Chine, mais un petit peu moins au Québec, là.
Ouais, bien, je veux dire, on n'est pas rendu là ici, mais c'est définitivement une possibilité là, qui s'en vient. Ça, c'est sans parler, évidemment, de tout ce qui est vulnérabilité, de problématiques dans les voitures, de tout le tracking, là, t'sais, de savoir ce que vous faites. Quand vous achetez une Tesla ou une voiture électronique, c'est pas les gadgets, c'est presque vous le produit, là. Ils utilisent les données pour faire des produits. Tout ce qui est Tesla, toutes les métriques qu'ils reçoivent, c'est utilisé pour faire d'autres produits, de la revente à des entreprises, tout ce qui est les assurances. C'est tout ce qui touche à la voiture est utilisé ailleurs sans vraiment votre permission. Puis même si c'est votre permission, ben si vous voulez utiliser la voiture, nécessairement, ils doivent prendre ces données-là. Là.
Oui, bien, c'est sûr que c'est le couteau à double tranchant d'une technologie qui est ajoutée dans nos vies et donc dans la voiture. Mais quand je vois le Cybertruck de Tesla ici en arrière, je te dirais, moi, je l'aime, cette voiture-là. Je sais qu'elle fait pas l'unanimité, là, mais elle est vraiment magnifique. On est dans Back to the Future. On est dans quelque chose de complètement différent. Puis je vous le dis aux auditeurs, en fait, puis à toi aussi, Patrick, là, ça reste que... Les stationnements en parallèle sont beaucoup plus intéressants maintenant depuis qu'on a les caméras puis les sensors. Sauf qu'effectivement, on se tient moins à jour sur une conduite un peu plus autonome par l'humain, mettons, disons-le comme ça, à travers les technologies. Puis ça pourrait nous coûter cher à long terme si jamais il y avait problématique en technologie. T'as-tu déjà entendu une histoire accouchée dehors, admettons, à l'international par rapport à une prise à distance d'une technologie? X, parce que, tu sais, cette semaine, Patrick, puis on va en parler aussi parce qu'il y a eu une grosse panne dans Meta. On n'a toujours pas d'informations, en fait, sur cette panne-là à distance, à savoir si c'est quelqu'un qui a réussi à entrer dans l'entreprise ou encore c'est l'entreprise elle-même qui avait une mise à jour, admettons, à faire.
Non, on n'a rien entendu. Puis il y en a plusieurs pannes comme ça aux États-Unis, puis ça fait plus ou moins les nouvelles. Les réseaux cellulaires tombent depuis un mois, deux, trois fois, t'as eu toutes les connectivités de Facebook et toutes leurs autres applications. Ils ont pas vraiment dit pourquoi non plus. Ça peut être autant une erreur d'un employé que d'autres choses. Ça veut pas dire que c'est une attaque, mais ne pas avoir le détail rend ça un peu louche. Puis il y en a plein d'autres. Fait que c'est, ce qui est bizarre, c'est qu'on n'entend pas vraiment puis on comprend pas trop ce qui se passe. Fait que ça, c'est inquiétant, mettons.
C'est inquiétant, c'est intriguant. Habituellement, une entreprise qui sait ce qui s'est passé ou encore si ça s'est passé à l'interne, est-ce qu'elle va sortir automatiquement? Est-ce que majoritairement, elle va sortir dans les médias pour dire « Écoutez, un de nos employés a mal fait son travail » ou pour justement pas qu'on commence à spéculer que c'est peut-être de l'ingérence de d'autres pays?
La majorité des grandes entreprises vont le faire. Ça dépend des types d'entreprises, mais les grandes en tech, généralement, font ça. Puis on a même vu des exemples de certaines entreprises disant, regarde, c'est tel employé, ben, ils disent pas le nom de l'employé, mais ils disent un employé de tel rôle a fait une erreur, voici ce qui a été fait comme erreur, voici comment qu'on l'a réparé. Puis ça, c'est la bonne chose à faire, le concept de transparence. Puis pour frapper sur le même clou encore, c'est 100% l'inverse de tout ce qu'on voit dans nos médias à Québec, là, avec tout ce qui est élection Québec et autres. La majorité des entreprises qui sont sous attaque ne diront jamais rien. Fait que ça, tu sais, avec tous les dossiers ouvert en sécurité, que ce soit des projets qui s'en viennent ou des attaques. La transparence, c'est la meilleure chose à faire, surtout qu'on se compare aux grands joueurs que même quand le stagiaire crache tous les systèmes au complet, ils vont le dire publiquement. Parce que c'est la chose à faire. Puis même au niveau de sécurité, c'est ça aussi, parce que si une entreprise fait face à un problème, qu'il soit technique ou une attaque, ben faut que les autres comprennent comment ça marche pour partager cette connaissance-là pour pas que ça arrive. Ça,
mais t'as une vision
vraiment de la misère en entreprise à faire ça.
T'as une vision qui est très sécurité pour la société. T'as une vision sociale que j'adore, Patrick, là-dedans. Mais admettons qu'on est PDG demain d'une entreprise puis qu'il y a des frasques à l'interne. On veut pas inquiéter nos clients. Peut-être qu'on prendrait une décision différente que celle de la société. Puis c'est là où je me pose la question parce que, bon, avec la panne de Meta cette semaine que tout le monde a vécu puis que ça nous a fait prendre conscience, malgré que ça n'ait pas duré des jours et des jours, de l'importance, peut-être trop... de l'importance de ces médias-là dans nos vies, là, à quel point des fois on a de la communication simplement qu'avec les réseaux sociaux, qu'on ne connaît même plus le numéro de téléphone de nos proches par cœur ou autre. On a pris conscience de ça pendant cette panne-là, mais si Meta sortait pour dire « Hey, c'était pas à l'interne de notre entreprise », probablement que là, ce serait une information importante pour le monde entier, mais en même temps, si c'est à l'interne de l'entreprise, c'est Patrick qui a mal fait un branchement ou autre, cette journée-là, ben, ils veulent peut-être pas nuire à leur image de marque?
Bien, c'est sûr que ce concept-là va toujours être là, mais en même temps, faire des erreurs, c'est normal. Puis surtout pour les entreprises, la Silicon Valley, la manière de développer leur application et tout, c'est l'expression en anglais, là, fail fast, Mais tu sais, c'est de... Tu fais des erreurs rapidement, puis tu te rattrapes rapidement. Versus cacher la vérité, puis de dire tout ça, généralement, ça a plus d'impact. Puis on peut le voir, là, au Québec, on recule de quelques années avec Promutuel, c'est fait pirater, puis qu'ils ne l'ont jamais parlé, mais il n'y avait plus de système qui fonctionnait pendant 6 mois. Tu sais, ça leur a retombé dessus, versus dire la vérité, dire, regarde, oui, on a fait des erreurs, voici comment on s'attend à avancer. Dans tous les cas, le système ne marche pas. Hein. Fait que ce soit ne rien dire ou dire la vérité, généralement, la vérité va aider, puis la transparence est mieux dans ce sens-là. Même au niveau PR, puis tu sais, branding, ça a un grand avantage à dire les vraies choses ou la majorité des choses.
Mmh. Fait que quand je t'entends...
c'est une approche quand même intéressante de pas parler des problématiques quand ça aide tout le monde, en plus que ça aide généralement à sa propre réputation.
Oui, bien peut-être d'être un leader justement dans ce genre de problématique-là quand ça plante, de prendre la parole publiquement. Ça aurait pu être, oui, une bonne opportunité pour Meta d'être leader là-dedans, mais en même temps, s'ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé eux-mêmes là, sur leur réseau, puis pourquoi on a eu une panne cette semaine, c'est là où il va falloir aller de l'avant. Est-ce que, Patrick, est-ce qu'on est comme dans la théorie du complot si on se dit, ben peut-être même que, je sais pas moi, le président, ben peut-être pas Joe Biden lui-même, là, mais mettons, les États-Unis ont contacté les propriétaires de Meta et on dit là, qu'est-ce qui s'est passé? Meta dit, on le sait pas, parfait, ne sortez pas pour ne pas alerter personne, mais on va aller regarder si c'est pas justement de l'ingérence à l'international. Est-ce que toi, t'es dans cette théorie-là de croire que c'est majoritairement peut-être l'extérieur, soit un autre pays qui voulait voir jusqu'où ils étaient capables de se rendre pour contrôler tout ce qui est Meta et qui se sont plongés là-dedans et qui ont créé cette panne? Est-ce que t'es plus là-dedans ou dans une panne créée par Meta?
Je pense plus du côté de la panne, mais avec tout ce qui se passe, parce qu'il y a des attaques, comme je dis, ben, des attaques, on pense que c'est des attaques ou des problèmes quand même d'envergure avec les tours cellulaires, il y a des trucs dans les systèmes de santé, il y a des trucs dans les systèmes hydroélectriques, tout ce qui est Meta, il y a plein d'autres systèmes qui sont tombés aussi. Fait que, tu sais, la coïncidence est quand même intéressante. Est-ce que le gouvernement parle à ces grandes entreprises-là totalement? Là, le scénario que tu expliques est 100% probable aussi. Est-ce que c'est le cas? Ben, on le sait pas. Mais dans tous les cas, ils devraient dire, tu sais, on est en train d'investiguer la chose et on vous revient. Peu importe c'est quoi la raison en arrière, c'est vrai qu'on peut pas la deviner tout de suite. Là. Même quand c'est une erreur volontaire, souvent, ça prend des heures et des jours à trouver. De simplement dire où est-ce que c'en est les choses, ça serait intéressant. C'est sûr que s'ils savent que c'est une attaque externe, le concept de ne pas rien dire comme ça et de gérer les communications, là, les fermer entre plusieurs entreprises, c'est possible aussi. Là. Mais l'affaire, c'est que ça va être très, très difficile de savoir ce qui se passe, parce que si on n'est pas dans le secret, on ne le saura pas. Là.
Non, puis j'ai l'impression que c'était... Admettons que c'était de l'ingérence là étrangère. J'ai l'impression que dans le contexte géopolitique actuel, il y a quand même une communication très efficace à avoir pour pas faire peur aux gens, puis s'assurer justement qu'on reste fort face à des entrées peut-être furtives de d'autres pays dans nos entreprises, oui, ou dans nos communications ou dans nos réseaux cellulaires. Là. On pourrait pas sortir du jour au lendemain et dire « Ah, c'était la Russie », tu sais.
Exact. Il faut le dire parce que là, quelques semaines, les États-Unis avaient détecté que la Chine était dans leur système. Je me souviens plus du type de système, mais des systèmes gouvernementaux ou critiques, depuis plus de 5 ans. Donc, ils étaient dans les systèmes en attente à rien faire pour le moment qu'ils veulent faire des attaques. Ils ont réussi à les détecter.
OK, donc ils étaient juste présents. Ouais. Il avait réussi à entrer, donc il était passif juste pour constater qu'il était capable d'y entrer et peut-être faire quelque chose à plus long terme si jamais ils avaient envie. Là.
Exact. Fait que là, c'est vraiment une attente politique de dire, ben, à tel moment, on peut faire telle chose, ou ils écoutent puis ils regardent les données. Fait qu'ils ont la possibilité de faire ça. Puis, tu sais, pour donner une envergure de la Chine, puis il y a d'autres pays comme ça aussi, là, mais la Chine a à peu près 150 à 250 000 personnes à temps plein au niveau offensif pour attaquer les autres pays. C'est énorme. Tu sais, si on en a une dizaine de personnes au Canada qui fait ça, c'est bon. Aux États-Unis, c'est peut-être une dizaine de mille. Les autres sont plus d'une centaine de milliers de personnes dédiées à la recherche et à l'attaque. C'est incroyable. Fait que leur capacité est vraiment énorme, puis on la voit pas. Puis ça, ça l'a prouvé en plus, là. 50 ans sans se faire détecter, ça montre qu'ils sont, ils savent ce qu'ils font, mettons.
Je comprends. C'est vraiment la nouvelle façon de faire la guerre, ou du moins de créer un peu de tension entre les pays, puis de prouver qu'on est le plus fort. T'sais, longtemps, on a parlé de tout ce qui est armes nucléaires ou la bombe atomique, ou ça, je veux dire, ça fait plus peur peut-être à la personne qui la détient qu'à celui qui pourrait risquer d'en subir les conséquences, là, dans le sens où ils savent pas jusqu'où ça peut se rendre. Mais côté attaque informatique, c'est vraiment ce qui est moderne depuis plusieurs années. Hey, Patrick, avant de te laisser partir, j'ai vu et je t'ai envoyé ce nouvel emploi qui est menacé, en fait, par la technologie, par l'intelligence artificielle, qui est l'emploi d'être influenceur. Hein. Les créateurs de contenu, vous les connaissez, vous les voyez justement sur les réseaux sociaux. Ils vous vendent des produits, ils s'associent avec des entreprises. Il y en a des honnêtes, il y en a des moins honnêtes, il y en a qui vont dire leur vrai compte rendu d'un produit, d'autres non. Vous allez suivre certains pour leur personnalité, pour leur look ou encore pour leurs commentaires. Bien là, il y a une entreprise qui a été créé, en fait, de toutes pièces pour créer par l'intelligence artificielle des influenceurs, de A à Z pour une entreprise. Vous pouvez choisir le prénom, le nom, la personnalité, le mode de vie, la voix signature, les photos qu'elle publierait, en fait, cette personne-là, cet influenceur-là, son horaire d'une journée, les contenus photos, les contenus vidéos. Finalement, vous pouvez, en tant qu'entreprise, faire créer un influenceur ou une influenceuse à votre mesure et qui va générer pour votre entreprise des revenus en étant finalement la carte de visite de votre entreprise, le panneau publicitaire humain. Hey, ça, c'est fascinant. Là. On est ailleurs. On est vraiment dans le comble du vide, non, Patrick?
Comble du vide est là. Le bon point. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est évidemment, c'est pas nouveau. Dans la dernière année, à peu près, le plus ou moins un an, une certaine entreprise avait créé un AI d'une femme influenceuse, évidemment très jolie, qui, si tu regardes trop vite, tu le sais pas que c'est généré à l'ordinateur, mais évidemment, quand tu commences à regarder, la peau n'a pas l'air réelle, tout a l'air généré artificiellement. Et cette organisation-là, avec ce personnage-là, a réussi à avoir des millions de followers et d'avoir des revenus publicitaires dans les millions aussi. Donc, de voir une entreprise qui génère ce type de personnage-là, c'est très logique. Mais ça, évidemment, ça démontre que c'est bidon, dans le sens que tout ça, c'est vraiment juste de la visibilité au final. Est-ce que ça enlève vraiment un emploi? Pas vraiment, parce que ça prend quand même quelqu'un qui va le gérer, cet AI-là. Fait que c'est de prendre des photos de soi-même ou de générer des photos, ça reste que quelqu'un en arrière qui paye sur le bouton. Ça change pas grand-chose en termes d'emploi. C'est juste pas la même personne qui va avoir l'emploi.
Ouais, mais ça reste fascinant qu'on soit capable de tomber dans le piège que l'intelligence artificielle soit capable de nous vendre quelque chose d'une entreprise qui a payé pour créer l'intelligence artificielle. En tout cas, tu comprends, là, le nid est dans l'arbre, là. Tu sais, c'est incroyable, là. Moi, ça me fait capoter. Si jamais j'avais un restaurant puis je contactais l'entreprise qui commence à faire de l'argent en créant de faux influenceurs par l'intelligence artificielle pour promouvoir mon restaurant puis qu'ils me fassent des photos où, mettons, Melinda vient manger à mon resto, puis que là, les gens disent « Ah, j'aime donc bien Melinda, mais elle n'existe pas, puis je vais aller manger à ce resto-là. » En tout cas, ça me fascine, moi, Patrick, où on est rendu. Ça me fait presque peur et ça me rappelle certains épisodes de l'excellente série sur Netflix, Black Mirror.
Tout à fait, ça fait bien du sens. Puis ça, c'est une des possibilités. Hein. Fait que, tu sais, le danger de toutes ces images-là, mélangées avec le deepfake, là, d'avoir les vraies images, les vrais personnages, en arrière de des vidéos puis des photos générées, bien, c'est la désinformation ou le contrôle de l'information, parce que malheureusement, faut le dire, la majorité des médias sont très, très, très influençables par ces choses-là. Fait que ça va avoir une influence beaucoup plus grande que juste vendre des objets, puis ça s'en vient dans les prochaines années.
Merci beaucoup, Patrick Mathieu, expert en sécurité informatique. On te souhaite un très bon vendredi. Puis, profites-en en ce 8 mars pour dire aux femmes qui t'entourent pourquoi tu les admires.
Définitivement, surtout en informatique. Je lisais sur LinkedIn tantôt des commentaires de plein de femmes qui sont traité de manière vraiment moche en informatique. Ça me désole de voir ça. Je savais pas que c'était encore quelque chose aujourd'hui. Ben, je veux dire, je le savais, mais je savais pas que c'était aussi répandu. Ma conjointe
là,
travaille dans
sorties.
Le domaine, c'est ça aussi tout le temps. Là. Ouais.
Ah ouais, hein? Ils sont sortis sur LinkedIn aujourd'hui, vu le 8 mars, pour peut-être dénoncer certaines choses?
Oui, oui, de démontrer des scénarios comme quoi, tu sais, des personnes qui travaillent en informatique, qui sont techniques ou non, se faire dire, ben, quand est-ce que tu t'en vas, quand est-ce que tu démissionnes, quelqu'un, un client qui rentre, qui dit, bon, je veux parler à un technicien, la femme se présente, dit, non, non, je veux un vrai technicien. C'est ce genre de comportement ultra sexiste-là. Ça existe énormément en TI, malheureusement. Les hommes le voient pas, malheureusement, parce que si t'es pas confronté directement à cette interaction-là, tu penses que ça existe pas. Mais il faut être conscient que la majorité des entreprises au Québec et partout, beaucoup, beaucoup de vos collègues agissent en sexisme comme ça, puis il faut dénoncer ça. Les meilleures personnes dans le domaine de la sécurité que je connais, c'est toutes des femmes, je veux dire. Vous êtes extrêmement bonne dans ce niveau, dans ces choses techniques-là. Puis il faut forcer nos jeunes à travailler dans le domaine, mais c'est vraiment pas facile. Là.
Mais qu'elle se fasse respecter aussi. Bien, comme disait Martin Luther King, celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui. Mais effectivement, exact. Parfois, ça peut être inconscient. Mais si c'est conscient, bien, c'est de travailler tous ensemble. Merci Patrick Mathieu, un bonheur de t'avoir parlé aujourd'hui.
Yes, bon week-end, merci Thomas.
À la semaine prochaine. Patrick Mathieu, expert en sécurité informatique. C'est vrai, ça, des fois, tu sais, c'est inconscient, on s'en rend pas compte. Puis c'est pour ça que, en début d'émission, je remerciais également les hommes qui nous entourent et qui nous laissent cette belle place-là, juste que vous ayez choisi leur CV. Une heure d'une femme de 29 ans qui vous parle à chaque jour du lundi au vendredi et vous choisissez de vous brancher à Boulevard 102.1 et que vous choisissez d'écouter mes brillantes collègues à Boulevard 102.1. C'est un bonheur de travailler avec elles. Puis c'est grâce à vous qu'on a réussi à faire notre passion. Vous nous prenez au sérieux. Puis vous nous laissez cette place-là dans vos vies. Vraiment, c'est très, 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 très bénéfique, je pense, votre présence, en fait, pour nous. Puis surtout, ben merci de choisir Boulevard 102.1. Princesse, vite à Boulevard 102.1. C'est ce qu'on vous offre parce que la programmation est 100% féminine aujourd'hui en musique, justement pour souligner cette journée du 8 mars. Et je vous rappelle qu'on est en direct du Salon de l'Auto de Québec au Centre de Foire. Venez nous voir. On a un beau kiosque et Yannick Marceau devrait amener dans quelques instants, parce que Marceau Midi est présenté du Salon de l'Auto également. Actualité, entre autres, côté incendie, bien, ça brûle un peu partout là, dans la grande région de Québec ces jours-ci. C'est un petit peu inquiétant parfois. Cette fois-ci, ce sont des incendies du côté de Saint-Georges. Donc, ça rappelle la vague de feu qui a éclaté à Donnacona il y a à peine 2 jours. C'est 5 autres incendies suspects qui sont survenus la nuit dernière entre 22h30 et 2h30 du matin. C'est des petits feux là, qui se sont déclarés sur des rues différentes, là, la 2e avenue, la 17e rue, l'avenue Bernier, la 1e avenue. Et dans tous les cas, les foyers d'incendie, ça se trouvait à l'extérieur et ils ont été rapidement éteints. Heureusement, il n'y a pas de blessés là-dedans, mais début d'incendie qui se sont déclarés dans une corde de bois, un fauteuil extérieur, une chaise extérieure, un bac de recyclage, des débris. Peut-être pour nous rappeler, en fait, de ramasser ces choses-là si jamais ça traîne, pour s'assurer qu'il n'y a pas un pyromane là, qui décide de les allumer pendant la nuit. En même temps, des chaises extérieures, je veux dire, ça, vous avez bien le droit de les laisser, mais un vieux matelas qui traîne, si c'est pas le vôtre, peut-être signaler le tout à la ville, parce que oui, ça court ces jours-ci, ce genre d'incendiaire-là. Rappelons qu'il y a un homme qui a été sauvé in extremis par 2 bons samaritains qui l'ont réveillé, qui ont alerté les pompiers quand ils ont vu une fumée s'élever d'un brasier provenant d'un cabanon sur la 22e rue récemment. Ça, c'était dans la nuit de mardi à mercredi. Mais là, ça fait quelques feux, en fait. Plus d'une dizaine, si je les calcule, là, qui ont été allumés de façon étrange à l'extérieur pendant la nuit. Est-ce qu'on a des pyromanes en liberté? C'est la question qu'on se pose. On se rappelle aussi de cette vague d'incendie qui avait lieu à Limoilou, entre autres, puis Saint-Sauveur. Ça, je pense que ça fait 4 ans de ça ou 3 ans. Puis on cherchait toujours, en fait, qui faisait ce genre de feu-là. Puis on profitait pour les allumer sur les balcons des gens ou encore dans les abris Tempo. ce qui faisait en sorte qu'il y avait des dommages, puis ça causait finalement un incendie dans des immeubles à logement. Ça, c'est un petit peu plus critique et inquiétant. Souvent, ce qu'ils vont dire les experts sur les lieux par la suite, c'est qu'ils vont prendre, puis ça, c'est Yannick qui m'avait fait remarquer, qu'ils vont prendre des images dans la foule, en fait, pendant que ça brûle, pendant que les pompiers s'affairent à éteindre les flammes. Et ce qu'on se rend compte parfois, c'est que le fameux pyromane aime voir comment son œuvre se déroule. Donc, il retourne sur les lieux de l'incendie pour admirer et profiter de ce qu'il a allumé. Et ça nous mène à des enquêtes, des fois, un petit peu plus intéressantes, dans le sens où on met la main sur le présumé suspect pour finalement l'accuser, puis réussir à l'enlever des routes et de nos terrains privés. Il y a aussi un dossier fort intéressant dans la presse ce matin. Je pense qu'il ne faut pas le négliger. Il va peut-être passer entre deux cracks, mais je voulais absolument l'aborder avec vous aujourd'hui. Il y a une adolescente qui a été agressée sexuellement par son intervenant auprès de la DPJ. Donc, il y a une adolescente de la DPJ agressée sexuellement par un intervenant du centre où elle était hébergée. Et il y a une décision de la justice qui a révélé tout ça maintenant. Voilà pourquoi c'est dans l'actualité aujourd'hui. Le dossier sur le bureau de la directrice nationale de la protection de la jeunesse. L'enfant était âgé de 14 ans au moment des faits. Ça s'est déroulé en 2022, en novembre 2022. Et elle venait de recevoir un congé de l'hôpital. Elle se trouvait dans un véhicule avec un employé de la DPJ. C'était en Mauricie et dans le centre du Québec. Il devait la raccompagner vers le centre où elle habitait, et sur le chemin du retour, on dit que l'agent d'intervention lui a mis une main sur la cuisse, il a arrêté le véhicule automobile dans la rue pour l'embrasser sur la bouche avec la langue, la toucher, en fait, profiter de ce moment seul avec elle pour l'agresser. C'est ce qu'a dit et écrit la juge Marie-Pierre Jutras de la Cour du Québec dans une décision qui date de janvier, mais qui a été rendue publique cette semaine. Et il a menacé la jeune de s'en prendre à sa fratrie, sa famille ou à elle-même si elle devait dévoiler tout ça. Finalement, elle a eu le courage d'aller plus loin et elle l'a dénoncé dès le lendemain. Elle a été interrogée par la police 12 jours plus tard. C'est quand même tard, je trouve, là, 12 jours plus tard. L'homme a été congédié, arrêté et fait maintenant l'objet d'accusations criminelles. Et il y a des gens qui ont parlé de ce type de dossier-là, entre autres une que vous connaissez peut-être. Elle a été dans les médias longtemps et encore parfois, mais la conférencière Nancy Audet, qui elle-même est une ex-enfant de la DPJ, puis elle a dit publiquement, puis même dans l'article, qu'elle n'était pas surprise de lire qu'une adolescente avait été agressée sexuellement par un employé de centre jeunesse. Et je lui ai parlé ce matin, puis elle dit que c'est un sujet qui est vraiment important et qui n'est pas abordé nécessairement. Et souvent, ça ne se rend pas en justice. Donc, elle avait son mot à dire, puis elle disait que ça arrive plus souvent qu'on pense de ses dires à elle et des témoignages qu'elle a reçus. Elle dit souvent, il y a des congédiements, mais il n'y a pas de suite non plus par rapport à ce type de dossier-là. Et quand on dépose des accusations dans un dossier comme celui-ci, bien, c'est une très, 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 très bonne nouvelle pour elle. Elle dit qu'enfin, ça pourrait faire bouger des choses et que peut-être on scruterait un peu plus les intervenants. Mais est-ce que ça ajoute, tu sais, pour cet intervenant-là, clairement, je veux dire, il fallait que ça se rende en justice et autres, mais est-ce que ça ajoute peut-être encore des frasques et de l'eau au moulin pour s'en prendre à la DPJ? C'est une question que je me suis posée ce matin. Bien que vous compreniez, j'espère que je dissocie complètement le dit dossier du commentaire que je viens de faire, mais clairement, il se passe quelque chose, puis c'est à discuter. Puis avec Nancy Audet, on le fera lundi prochain. Elle va être avec nous à l'émission pour parler de ce qu'elle sait, ce qu'elle a entendu et ce qu'elle souhaite passer comme message. C'est le temps de vous dire merci d'avoir été dans l'heure CV. Yannick Marceau est arrivé. Il est prêt pour cette journée internationale des droits de la femme au Salon de l'Auto de Québec du côté du Centre de Foix. Yannick n'a pas apporté de fleurs. Bon, je suis déçue. C'est ma première déception de la journée. Elle est due à Yannick Marceau. J'espère qu'au moins il va me faire rire dans ce show-là. Il a l'air de bonne humeur et on le rejoint dans un instant pour Marceau le midi. Merci Tom de l'autre côté de Le Bourgneuf pour nous mettre en onde dans le studio. C'est la dernière journée où on vous offre un show extérieur pour cette semaine, en fait, par rapport à Marceau le midi. Venez nous voir, venez profiter de ce Salon de l'Auto et sinon, ben, le reste de la programmation vous sera présenté en direct également en fin de semaine. Dan Deman y sera et notre fameux collègue Thomas Gauthier qui est en direct du studio pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été là. À tout de suite.